Un jour, un livre, un auteur, Diego Arrabal, bonjour.
Bonjour mon cher Philippe.
Bon, aujourd'hui, Diego Arrabal, vous revenez sur vos terres préférées.
Je reviens à mes amours et mes terres privilégiées qui
C'est-à-dire un
sont
roman
celles.
intimiste? Ah non,
Voilà,
ah
non, c'est
non.
le
Ah non,
polar
non, c'est le
bien
polar.
sanglant.
Eh ben
Mais
allez, à vous la parole.
voilà, la semaine dernière, nous étions du côté de la Normandie avec votre invité et cette semaine, nous allons aller du côté de la Bretagne, non pas l'endroit où habite mon invité, mais l'endroit où se déroule son histoire. Bonjour Jeanne.
Bonjour Diego, bonjour
Donc,
Philippe.
nous recevons Jeanne de Zobry pour son roman. C'est une romancière chevronnée. Donc là, c'est son nouveau roman, La morsure des embruns, aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge. Donc voilà, bonjour Jeanne. C'est avec grand plaisir que je vous reçois. C'est la première fois que je vous reçois. On se connaît parce qu'on s'est
Mais
déjà
voilà.
croisés, mais c'est la première fois que je vous reçois sur cette antenne.
C'est un très beau titre, La morsure des embruns.
Oui,
Merci.
disons qu'il va très bien avec l'histoire.
D'accord.
Voilà. Alors Jeanne, comme je vous l'ai dit hors antenne, on a une habitude dans cette émission, c'est que je fais une petite présentation de l'ouvrage dont on parle et de l'invité que je reçois, et que à partir de cette description du roman, eh ben l'invité, il a le droit de réagir. Alors heureusement, vous êtes au téléphone, donc je ne risque pas de me prendre un coup de parapluie, mais vous aurez le droit de réagir vertement si c'est nécessaire.
Eh bien, allons-y.
Alors allons-y. La morsure des embruns de Jeanne de Zobry aux éditions Arcane 17, collection Polar Rouge. Joanne Estelle Doucet, qu'on appelle aussi Jed, est une scénariste et romancière d'une quarantaine d'années qui a investi la plus grosse partie des droits d'une série de télévision dans la réfection d'un bunker devenu la casemate, maison autonome sur la côte bretonne. Misanthrope, elle se fait violence pour s'abriter avec toute la population du petit village, alors qu'une violente tempête doit balayer la côte bretonne. Bon, c'est assez proche de ce que nous vivons depuis quelques semaines, hein. Le lendemain de la tempête, Jed trouve un bras échoué sur la grève sous sa maison. Impossible à identifier, il est pris en charge par la gendarmerie. Les questions ne manquent pas. Est-ce celui d'un pêcheur disparu depuis quelques jours, celui d'un trafiquant ou d'un de ces passeurs qui écument la côte? De son côté, Jed mène ses propres recherches car elle est persuadée que c'est celui de son fils Philippe avec lequel elle entretient une relation, disons, très difficile. Rapidement, Jed fait figure de suspect idéal pour les gendarmes, que la personnalité borderline de la femme dérange. D'autant plus que la découverte de son bateau volé quelques jours plus tôt, pardon, révèle la présence de sang hâtivement nettoyé. Dans ce roman court et percutant, Jeanne de Zobry nous invite à explorer le quotidien des gardes-côtes de la Manche, celui des réfugiés qui tentent avec constance de quitter le sol français pour atteindre l'Angleterre qu'ils idéalisent, et enfin les angoisses d'une femme traumatisée dans sa tendre enfance. L'écriture est fluide, nerveuse, et interroge sans relâche le lien qui existe entre un jeune migrant cherchant désespérément à traverser la Manche par des chemins inédits et l'énigme du bras. Au lecteur de le découvrir en suivant la quête de cette femme imprévisible. Un roman plus que nécessaire aujourd'hui pour tenter de comprendre notre monde en particulière débâcle. La morsure
Ah
des
oui.
embruns, Jeanne de Zobry, édition Arcane 17, Polar Rouge.
Je
Voilà,
souscris au mot
oui.
débâcle.
Ah, tout à fait. Je crois qu'on est bien dans cette situation-là. Jeanne, ce roman, il est quand même extrêmement personnel.
Oui, mais enfin, si c'était pour faire un livre de recettes, on serait pas en train de me parler.
Oui, mais je veux dire que c'est quand même une question à laquelle vous êtes attachée, cette question de la migration, cette question
Absolument.
de la violence, etc. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce roman sous cette forme-là? C'est-à-dire avec ce personnage-là et dans ce contexte?
Alors, si on parle du personnage de la femme, c'est même si elle est plus larvée, si on en parle peu, là aussi il y a une violence considérable. Mais ce que vit Jed n'est pas totalement exceptionnel et le sort des femmes est rien moins qu'enviable. Elle représente une moitié de la population mondiale et certainement la moitié la plus esquintée en permanence. Et donc, quelque part, il y a une fraternité entre elle et ce migrant qui, lui, subit une autre forme de violence de la part de la société. Donc, et puis, je ne sais pas vous dire, mais quand je repense à mon personnage de Boubacar, pour lequel j'ai vraiment une grande tendresse, me revient une réflexion d'une dame très bien sous tout rapport qui m'a dit, ayant sans doute regardé un reportage sur BFM, oui, alors tous ces migrants, bien sûr, ils n'ont rien, mais moi, j'ai un vieux téléphone à clapet, il faut voir, ils ont tous des iPhones. Et j'étais tellement. C'est vraiment souvent comme ça que je démarre un roman, une écriture, une nouvelle. C'est sur une réaction instinctive à quelque chose que je viens d'entendre. Parce que c'est effectivement, ils ont certainement des portables, mais c'est tout ce qu'ils ont.
Ah oui,
Voilà.
c'est leur
Et
seul.
quelquefois, ils ne peuvent même pas les
Les
charger.
utiliser, ouais. Oui. Et puis c'est aussi le seul point de contact qu'ils ont pour pouvoir
Bien sûr.
éventuellement appeler leur famille qui est restée loin en arrière et qui attend à la fois des informations, mais qui attend aussi des nouvelles pour savoir si réellement la personne a réussi et qui attend aussi qu'on l'aide, quoi,
Voilà, tout à fait.
parce que ce qu'on oublie souvent, c'est quand même le fait que des gens quittent leur vie et traversent des épreuves qui sont innommables, ils le font pas pour le plaisir.
Je crois que
Les migrants ne sont pas des expatriés.
non du tout,
C'est tout à fait différent.
ce sont des gens qui abandonnent tout derrière eux, leur mode de vie, leur famille, la sécurité. Quelquefois, ils fuient, bien sûr, des situations terribles, mais souvent aussi, ils fuient une espèce de misère organisée par notre système, en gros, qui les réduit à rien et qui en fait des populations qui manquent de tout. Donc, avoir le courage de tout laisser derrière soi, je trouve que ça mérite un minimum de respect.
Tout à fait. Votre personnage, Jed, est un personnage écorché. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sa vie rapidement, sans déflorer le roman, mais raconter un peu sa vie?
Jed, certainement, bien que ça soit jamais dit dans le roman, elle est atteinte d'une maladie psychique. Hein. Elle est probablement soit bipolaire, soit ce qu'on appelle les gens borderline, c'est-à-dire qu'elle est effectivement, c'est une écorchée, c'est-à-dire qu'elle ne supporte rien, elle préfère mordre avant que d'aboyer, elle se protège. C'est pas pour rien qu'elle vit dans un bunker, hein. C'est quelqu'un qui a
C'est très
les
parlant.
mitraillettes, voilà, elle a les armes en batterie en permanence. Elle se laisse toutefois, on le voit sur la fin du roman, elle peut se laisser toucher, attendrir, mais elle a souffert de viol incestueux, elle a souffert de viol tout court, elle a souffert d'incompréhension aussi, de manque d'amour, de tendresse, et donc elle se protège en attaquant, voilà. Donc elle n'est pas forcément facile à vivre. Elle arrive quand même à construire une relation avec un des personnages que j'aime beaucoup, qui est le généraliste sénégalais installé en Bretagne profonde Et si on n'aime pas les noix, on adore Diop quand même, hein, au village, quoi. Voilà.
Oui, je veux dire qu'au départ, c'est ce que vous racontez un peu, c'est il a été regardé un peu de haut et avec une grande crainte. Et puis, je veux dire, c'est quelqu'un qui a su, à travers ses compétences et son humanité, parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement humain et qui est très résilient. C'est-à-dire que, vivre ou du moins avoir une relation avec Jed, puisque c'est le cas dans votre roman, nécessite une dose de résilience et d'abnégation qui est assez extraordinaire. Et on ne
Oui,
peut
mais
que dire que cet homme est, je dirais pas que c'est un saint, mais c'est quelqu'un
pas
qui
tout
est
à
ouvert,
fait,
voilà,
non.
qui est ouvert et même très ouvert
Oui, mais il connaît aussi la richesse de cette femme,
Oui,
parce
oui.
que c'est aussi une artiste. Bien sûr, j'en fais une romancière, une scénariste, mais elle est aussi dessinatrice. Et donc, il appréciait la complexité du personnage parce que lui-même est un homme intelligent qui s'attend pas juste à ce que madame mette la soupe dans l'assiette quand il rentre le soir, quoi.
Même si elle fait très très bien à manger, je dois dire que
Ah
quand
oui.
vous décrivez certains des repas, ça donne envie de s'installer à table avec eux.
Ben, écoutez, je me suis interrompue dans la préparation de paupiettes aux champignons sauvages, là. Donc
Ah, désolé,
voilà.
désolé, mais bon, c'est l'heure de
On peut pas.
déjeuner.
Oui, mais c'est important, ça fait partie des choses importantes de la vie.
Ah bah.
C'est un peu comme je ne saurais pas écrire un roman où il n'y aurait pas d'odeur, où il n'y aurait pas de cuisine, où il n'y aurait pas de bon vin, où il n'y aurait pas. Même quand c'est un roman qui peut avoir des côtés durs comme celui-ci, il y a aussi de l'humanité et de l'espoir, et ça passe notamment par ça.
Ouais. Ben, je veux dire, en lisant votre roman et en découvrant ce qu'elle fait à manger, ça m'a fait penser à Montalban, bien sûr,
Ah bah
avec à
c'est un
chaque fois.
compliment.
Voilà. Et puis je veux dire, on retrouve aussi cette présence, cette importance de la cuisine comme moment pacificateur.
Tout
On
à
le
fait.
retrouve aussi dans les Maigret, parce que quand on le voit arriver quelque part, il traîne, il boit son petit verre de blanc, et puis il s'installe et il mange un sauté de veau ou autre
Voilà, c'est
chose. Et
souvent de la bonne cuisine
voilà,
française,
c'est
un peu
de la
lourde
bonne
quand
cuisine
même.
traditionnelle,
Voilà.
mais c'est un élément important parce que c'est aussi un élément pour faire réfléchir. Ça donne de l'énergie, bien sûr,
Ça
mais
donne du temps.
ça donne du temps et ça permet aussi de mettre à distance. C'est-à-dire que pendant que l'on est en train de déguster quelque chose, le cerveau continue à travailler et à faire avancer l'histoire, quoi.
Et vous avez souligné que le temps du repas est aussi un temps de partage.
Tout à
Parce que
fait.
cuisiner pour soi tout seul, c'est un peu tristoun, quoi. Mais cuisiner pour les autres, partager, recevoir des remerciements, c'est quand même un grand bonheur.
Oui, et puis de voir la mine réjouie de ceux qui se régalent avec ce qu'on a fait, même quand lorsque c'est simple, mais voir la mine réjouie des autres, c'est un cadeau extraordinaire. Et il y a aussi, je veux dire, vous avez quand même une galerie de personnages qui sont intéressants. Il y a le capitaine des gardes-côtes, là, avec, bon, vous démarrez sur, toujours en parlant de cuisine, on vous démarrez sur
C'est
la
vrai,
question du
j'avais pas fait
cuistot
attention.
la question du cuistot qui risque de demander sa mutation et où les membres d'équipage sont pas du tout d'accord pour le laisser partir. Mais ce capitaine, c'est quelqu'un quand même, on le voit pas beaucoup puisque ça dure un chapitre ou un chapitre et demi, mais c'est quelqu'un de particulièrement posé, c'est quelqu'un d'extrêmement humain aussi. Vous pouvez nous en
Très
dire quelques mots?
contemplatif. Ah oui, j'aime beaucoup. Je,
C'est
mais
un
il
personnage que
existe.
vous avez rencontré, je pense.
Oui, c'est quelqu'un qui existe en vrai, en chair et en os, qui m'a consacré, qui a accepté de me consacrer du temps. Je suis allée le rencontrer à Cherbourg, Il m'a expliqué le fonctionnement, puisqu'il était, malgré bien qu'habitant Cherbourg, il est basé à Boulogne. Et donc, il m'a parlé de son quotidien et du fait que de plus en plus, ils font beaucoup moins de contrôle qu'autrefois, puisque les douaniers étaient autorisés à aller inspecter les bateaux en haute mer. Et qu'ils font de plus en plus du secours. Il y a eu un peu plus de 40 000 traversées l'année dernière,
C'est
traversées de la
énorme.
Manche. C'est énorme, oui. Il n'y en a pas eu du tout, je crois, au mois de novembre, parce que les conditions de mer étaient mauvaises. Mais ce personnage m'a dit des tas de choses qui m'ont vraiment touchée, qui m'a dit il y a tous ceux qu'on secourt.
Et
Et
puis à
il y a
tous.
tous ceux à côté de qui on passe, et ma hantise, c'est de ne ramasser que des corps. Et la Méditerranée est déjà devenue un vrai cimetière, et la Manche est en passe de devenir un autre cimetière. Et c'est vraiment un être pétri d'humanité honnêtement, je ne sais pas combien de temps il tiendra. Parce qu'il m'a semblé très, très atteint moralement et affectivement. Et il m'a dit que son métier devenait de plus en plus dur et qu'il prenait la mer. Alors, ils partent pour 2 semaines en mer et qu'il prenait chaque fois la mer avec un nœud au ventre en se demandant ce qu'ils allaient trouver.
Et puis, il y a aussi tous ceux qui disparaissent et dont on ne retrouve même pas les cadavres, quoi,
Voilà,
aussi.
voilà. Qui disparaissent anonymement, en fait, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Je trouve que c'est un destin atroce, parce qu'en plus, je pense à tous les gens qui, de l'autre côté, les ont vus partir et n'en savent plus jamais rien. Je trouve que c'est une des choses les plus horribles qui soient. Et il y a un petit personnage qui passe très vite dans le roman. Qui justement souffre d'une autre disparition, de celle de son mari, qui un jour disparaît, tout simplement.
Oui,
Et
il y a un marin pêcheur.
voilà, il y a l'histoire du marin-pêcheur. Mes personnages sont souvent des femmes qui sont comme ça dans l'attente, finalement, de savoir. Et Jed, au contraire, elle rentre dans l'art et elle n'attend pas de savoir. Elle veut être maîtresse de son destin.
Elle veut avoir une vie normale, quoi, c'est-à-dire pouvoir décider par elle-même de ce qu'elle
Bien
veut.
sûr.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un peu de Jed en vous ou de vous en Jed?
Il y a forcément, quand on écrit un roman, oui, il y a toujours un peu de ça. L'autre jour, il y a deux ou trois jours de ça, j'essayais de convaincre mon mari de faire quelque chose. Et comme il résistait, je dis à la troisième personne qui était là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est têtu. Et il a beaucoup ri et il a dit, mais je crois que je le suis moins que toi. Et du coup, depuis, je m'interroge, je me dis, mais en quoi je suis têtu, moi qui suis si douce de caractère? Bon, faut bien reconnaître que oui, il doit y avoir de Jed en moi, oui, bien sûr.
Je
Mais
pense
en
qu'on.
poussant un peu les curseurs quand même.
Ouais, non, je pense qu'il faut quand même pousser pas mal parce que Jed, elle est quand même gratinée pour, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, mais elle est quand même gratinée. Et là,
C'est vrai.
quand je lisais le roman, c'est vrai que je me disais que Diop est un amour, quoi, parce qu'il
Ben, il
est.
est solide en tout cas.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, et on va terminer sur ce personnage-là, j'ai beaucoup aimé le personnage de l'avocat.
Ah, je me demandais quand est-ce que vous parleriez de Papageno. Ah oui, celui-là, il est très fantaisiste. Oui, alors, on n'a pas dit que Diop avait une relation avec Jed, mais qu'il n'était pas exclusivement attiré par les
Il est
dames.
bisexuel, oui.
Il est bisexuel et évidemment, ça fait partie des étrangetés qu'on a eu un petit peu de mal à encaisser dans son village breton. Et les vieux pêcheurs commandent ça au bar des baleines, du phare et des baleines, là, quand même. Et donc, quand on voit débarquer, il y a la nécessité de faire soutenir Jed à un moment par un avocat. Et l'avocat que le recrute pour elle Diop, qui est un de ses amis, est un peu, voilà, je l'appelle Papageno, elle l'appelle Papageno.
Papageno, oui, mais c'est quand même un sacré avocat, c'est-à-dire que quand il meurt, il lâche pas forcément prise, et la juge, qui est quand même assez détestable, disons qu'elle elle est quand même sujette à beaucoup de morsures de la part de cet avocat, et qu'elle doit lâcher prise à un moment donné, parce que
Ah ben,
lui
il
ne
laisse
lâche
pas
pas
passer,
prise.
oui. Oui, il laisse pas passer, il est du côté de sa cliente, bien sûr, mais à fond. Et de la même manière qu'il est extrême dans ses fantaisies, il est extrême dans son engagement auprès de sa cliente. Mais cette juge, c'est un personnage féminin qui vient un peu en contrepoint de Jed. Parce que je ne voudrais pas qu'on pense que je suis une espèce de féministe obsessionnelle. Et la juge, elle est moche, elle est un peu crade, elle est un peu bête, elle est surtout jeune et elle est surtout
Un but, voilà,
inexpérimentée et
et
abuse de
un
son
but du, voilà,
pouvoir.
oui.
Donc
Mais
toutes les
c'est,
femmes ne sont pas des saintes.
oui, mais c'est ça aussi qui est que j'ai trouvé très très fort dans le roman. C'est cette palette de personnages dont aucun n'est vraiment caricatural. C'est-à-dire que chacun d'entre ces personnages, soit a un côté négatif, pour le cas, par exemple, de la juge, mais a aussi des côtés positifs, et on trouve vraiment une vraie galerie de portraits au sens, je dirais, de ce qu'était le feuilleton au 19e siècle, quoi, où on avait des portraits très, à la fois très typés, mais qui, dans leur accumulation, couvraient bien un peu le spectre de la société en général, quoi.
Il y a le gendarme de
Ah, il y a aussi le gendarme,
oui.
qui est un breton pur bretonnant et dont le premier prénom est Mahomet.
Voilà, tout à fait.
Ça, c'était
Non, non,
assez.
ça a été un vrai bonheur d'écrire ce roman et en même temps, ça a été un peu un crève-cœur de voir que tout ce que je racontais finalement, quand j'ai commencé l'écriture du roman, on ne parlait que de la jungle de Calais, on parlait plus de Grande Synthe puisque Grande Synthe a brûlé, mais on parlait de Calais et de ses environs. Et puis maintenant, on dit bien qu'il y a de plus en plus d'accidents en mer parce que Calais étant devenu totalement impossible, quel que soit le moyen, entre les camions, les trains, le tunnel et les bateaux, c'est devenu impossible. Et donc les migrants descendent. Mais quand on est à Dieppe ou au Havre, on a 100 km de mer, on n'en a plus 30.
Oui, tout à fait.
Et c'est plus
Et
du tout
c'est là
la
où,
même
et en plus, une mer extrêmement mauvaise
difficile.
en temps normal, je veux dire que les tempêtes sont fréquentes, et puis surtout, c'est les rails qui sont
Ah oui.
hyper fréquentés et où les priorités ne sont absolument pas respectées vu la
Bah,
taille des navires qui sont
mais
sur
de
ces
toute
rails,
façon,
quoi.
ils sont tellement énormes que
Ils
ils
peuvent pas
peuvent pas
voir.
éviter, ils ne voient pas et ils sont obligés de ralentir. Ils peuvent pas ralentir s'ils étaient obligés. Et donc, voilà, il doit y avoir beaucoup d'accidents, bien sûr.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est arrivé quasiment au bout de cette interview. Juste une dernière question. Là, vous faites vivre ce roman qui vient juste de paraître. Hein. Il est paru, il est en librairie depuis la semaine dernière, 15 jours. Donc, il vient juste de paraître. Vous avez déjà des idées de manifestations dans lesquelles vous le présenteriez?
Bien écoutez, je vais le présenter à Berck au mois de mai, au festival qui a lieu au Kursaal, le premier week-end de mai. Et puis le deuxième week-end de juin, au très beau festival des Encres Noires au Havre, justement. Et puis sans doute à l'hiver, au festival de Vitry. Enfin bon,
Donc, il y a une tournée qui est en perspective.
Oh, c'est pas une tournée de stars, hein. C'est pas
Oh, quand même.
Jean-Philippe Smet sort de ce corps, hein. C'est pas. Mais je serais heureuse, oui, de le présenter au public autant que possible, bien sûr.
Oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles signatures, Jeanne. Donc, je rappelle que votre roman s'appelle La morsure des embruns. Il est paru aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge. Et donc, j'espère que quand vous aurez d'autres publications à l'avenir, ben, on aura le plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Ben écoutez, le plaisir sera pour moi.
Et nous, on compte sur Diego Arrabal pour nous faire découvrir des polars. Hein. Je veux dire, il est passé maître dans l'art. C'est le maître S-polar, Diego Arrabal, de Radio Présence, un jour un livre, un auteur.
C'est un bon spécialiste, je le confirme.
Merci beaucoup. Au revoir, Jeanne.
Au revoir.
Au
Au
revoir.
revoir aux auditeurs aussi et nos amis qui sont là en
En
régie, à
régie.
côté de
Voilà, il ne faut pas
moi.
les oublier, les personnes en régie, parce que s'il n'y a personne en régie, il n'y a pas
Eh bien, il n'y a
d'émission.
plus d'émission.
Voilà.
Voilà.
On ne les remercie pas souvent, c'est vrai. Vous avez
Oui,
raison, Diego Arrabal.
non, c'est important de remercier ceux qui sont dans l'ombre
Oui.
et qui, lorsqu'ils ne sont pas là, eh ben, l'ombre, elle couvre tout.
Ah, on va terminer sur ça, Diego Arrabal, et se dire à la semaine prochaine. Hein. On ne peut
À
que
la
faire
semaine
ça. Hein.
prochaine.
Merci. Au revoir, Diego
Allez, au
Arrabal.
revoir.